Le docteur Arruda a dit hier que, bon, on va permettre, même si dans les faits, le décret l'autorisait, là, ces rassemblements de 10 personnes au maximum, limite de 3 familles différentes, et bien sûr le 2 mètres. Pourquoi je dis que ça existait? Parce que le décret disait que vous aviez droit d'être à l'extérieur, de maintenir ce 2 mètres, il n'y avait pas de nombre. Et donc, le fait de se retrouver, par exemple, dans une cour arrière, c'était pas illégal. On soulignait aussi du même fait que c'était peut-être compliqué d'organiser un souper à 7-8 personnes tout en respectant tout le temps le 2 mètres. Mais bon, hier, on a décidé de confirmer ça, voyant qu'il y avait peut-être un espèce de mouvement de plus en plus important que le beau temps de gens qui bifurquaient un peu les normes, les règles, les directives et s'adonnaient à des activités extérieures. Je vais parler de tout ça, puis également de l'évolution là, comme telle, j'allais dire de la science sur le virus avec le docteur Carl Weiss, qui est microbiologiste. Docteur Weiss, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Depuis hier, j'entends beaucoup de gens dire, c'est très bien là, sur le plan de la santé mentale, de permettre ces regroupements, là, ces rassemblements, ces retrouvailles, si on veut. Mais il y a des experts qui disent que le Québec va un peu vite compte tenu du portrait. Puis on donne des exemples ailleurs où on a pris ce type de décision-là, mais ça allait nettement mieux qu'au Québec, qu'à Montréal en tout cas.
Oui, alors définitivement, ça allait nettement mieux. Maintenant, c'est toujours une espèce d'équilibre entre la bouffée d'oxygène qu'on veut redonner à la population québécoise. Il faut dire que la population québécoise, on a peut-être souvent oublié de le mentionner, mais a été disciplinée, obéissante, a écouté globalement. Les Québécois ont fait ce qu'on leur a demandé de faire. Donc, je pense que déjà, ça a été un point important. Ça a probablement eu un impact. On mesurera un jour sur le nombre de décès qui a pu être évité, le nombre d'hospitalisations qui a pu être évité. Donc, les gens ont peut-être s'en rendent pas compte et dans l'espèce de tornade dans laquelle on vivait au jour le jour, c'est peut-être passé un petit peu sous les radars. Donc, il y a eu un impact de tous les efforts qui ont été faits par tout le monde. Maintenant, on arrive à une période où il semblerait qu'il y ait, je dirais, un auto-déconfinement, parce qu'il suffit d'aller se promener dans les rues de Montréal et de voir que le nombre d'individus qui se promènent, qui marchent ensemble, pas ensemble, etc., a augmenté de façon significative. Donc, c'est clair que c'est difficile de maintenir avec les beaux jours, après 10 semaines de confinement, et après quand même des données qui montrent qu'on est certainement arrivé à un plateau, on n'est certainement plus dans une croissance du nombre de cas, de maintenir tout le monde en confinement, parce que c'est comme si la marmite, il fallait finalement enlever le couvercle pour laisser un petit peu de vapeur sortir.
Est-ce que si d'ici, mettons, 2 semaines, bon, il y aura, c'est sûr, des cas, il y aura malheureusement des décès, quelques foyers d'éclosion, mais grosso modo, si ça demeure sous contrôle, est-ce que ça va vouloir dire, après 2 ou 3 semaines, qu'il y a une forme d'immunité collective qui s'est implantée, que le virus, finalement, je dis pas que c'est sous contrôle, là, mais que le portrait va être assez positif?
Collective, on est probablement encore loin de cela parce que ça prendrait environ 60-70% okay. de la population québécoise infectée pour se dire que le virus commence vraiment à avoir de la peine à se mobiliser et puis à continuer d'infecter des gens de façon active. Donc, on ne sera pas là. Par contre, ce qu'on a, c'est qu'on a appris quand même des choses au point de vue médical sur les traitements qu'on peut faire, comment on peut traiter. On est certainement meilleur aujourd'hui qu'on l'était il y a 8 ou 10 semaines dans la façon d'aborder le traitement du virus. Il y a encore des choses qui sont, je dirais, en manque et qu'il va falloir justement utiliser le temps présent pour se préparer pour les prochaines vagues ou vaguelettes qui vont survenir peut-être durant l'été, peut-être certainement à l'automne. Donc, tout l'aspect de l'équipement, de l'aspect des écouvillons, de l'aspect des tests, de l'aspect de la sérologie. Donc, c'est le moment de commencer maintenant avec cette bouffée d'oxygène qui n'est pas juste pour la population, mais qui est aussi pour le gouvernement et l'État, de se préparer aux prochaines vagues avec moins, je vous dirais, d'anxiété et moins d'urgence qu'on l'a fait lorsque tout est arrivé au début. Donc, oui, on va avoir des cas, vous avez raison, oui, il risque d'avoir des décès. Il va y avoir aussi, malheureusement, des cas chez des gens relativement jeunes, en bonne santé, probablement chez des enfants, mais ce sera plus des choses individuelles que des choses collectives. Et n'oublions pas que si, à un moment donné, la situation se détériore, à ce moment-là, il y a toujours moyen de revenir un peu en arrière, beaucoup en arrière. Tout comme si la situation s'améliore de façon importante, il y a aussi moyen d'accélérer peut-être certaines phases de déconfinement. Donc, encore une fois, c'est un équilibre, c'est une espèce de thermostat qu'il va falloir utiliser et jouer de façon continuelle.
Un des mantras, je dirais, de la santé publique, c'est évidemment de dire il faut tester, et aussi avoir la traçabilité, savoir donc s'il y a une personne qui est contaminée avec qui elle a été en contact. Je regardais des mesures prises dans d'autres provinces canadiennes où, au point de départ, on disait, voici, vous avez deux familles et vous n'allez pas fréquenter d'autres personnes. Vous allez voir entre vous, là, dans un premier temps, puis on pourra élargir après pour, justement, s'il y a un cas, ben on va être capable de cibler et d'encadrer rapidement. Êtes-vous surpris de voir qu'on permette à trois familles, par exemple, demain, de se retrouver, à une des trois familles d'être avec deux autres familles le samedi puis deux autres le dimanche?
Ben, écoutez, il n'y a pas de recette miracle là-dedans. Est-ce que trois, c'est pire que deux? Personne ne le sait. Alors, il faut essayer de trouver un juste milieu, un juste équilibre. En réalité, ce qui est important, c'est que l'ensemble des mesures soient en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, on a des applications où les gens pourraient s'inscrire, comme cela a été fait dans d'autres pays, pour pouvoir avoir une traçabilité rapide des contacts informatiques, etc., ça aiderait beaucoup. Si la capacité de tester, la facilité aussi d'être testé. Les gens pourraient être facilement se rendre à un endroit pour être testés s'ils en ont besoin. Et donc, si on est capable de faire tout ça de façon efficace, sans avoir trop de barrières administratives et sans se perdre dans les méandres de politiques et de procédures qui sont complexes, à ce moment-là, on aura beaucoup de souplesse dans le système et c'est ce qui permettra de rapidement contrôler des foyers d'éclosion possibles, que ce soit au niveau des usines, que ce soit au niveau des employés dans une banque, dans un bureau, que les gens puissent sortir, etc., dans les familles. Et donc, c'est un ensemble de mesures qui va nous permettre et qui va permettre finalement au Québec de contrôler cet aspect-là. Il ne faut pas oublier non plus qu'au Québec, on a deux éclosions actuellement. Hein. On a Montréal et, disons, sa région, et on a le reste du Québec où la situation est moins préoccupante qu'à Montréal. Évidemment, il faut s'assurer qu'elle ne devienne pas plus préoccupante dans ces régions-là. Donc, il faut aussi ajuster notre politique en fonction de où est-ce qu'on est.
Mais juste comprendre, Dr Weiss, actuellement, là, ces outils, là, ces applications ou ces registres, on n'a pas ça là, au Québec ou on n'a pas ça à Montréal?
On n'a pas ça. Je sais qu'il y a des compagnies qui travaillent là-dessus, mais on n'a pas, comme dans certains autres pays, des applications, par exemple, qui pourraient être utilisées avec des téléphones intelligents, mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Ouais. On devrait être capable d'avoir des centres de dépistage, on en a, mais il faudrait qu'ils soient bien indiqués, les gens puissent aller facilement, encourager aussi les gens à y aller. Je pense que c'est un travail qui est collectif, il faut que tout le monde y mette du sien, donc le gouvernement doit mettre du sien, mais la population doit aussi mettre du sien, et ça ne veut pas dire, parce qu'on parle de déconfinement, qu'à partir de maintenant, on ne doit plus respecter toutes les règles qui ont été mises en place. Entre autres, vous savez, on a parlé beaucoup du port du masque, qui serait universel, et il faut continuer à encourager ce port du masque universel. Vous savez, moi, j'ai des patients, c'est drôle, hier, j'ai fait une clinique, j'ai des patients qui sont revenus d'Asie et qui m'ont dit qu'ils étaient totalement surpris et stupéfaits de voir le peu de nombre de gens à Montréal qui portaient des masques, alors que dans les villes asiatiques, c'est quasiment universel. Alors, je pense que c'est certainement une mesure supplémentaire qui devrait être mise en place, et encourager, en plus de tout le reste. Là. Et n'oubliez pas qu'à partir du moment où on rouvre les transports en commun, eh ben, on va avoir plus de monde dans le métro, l'autobus, etc. Donc, plus de risques de contamination communautaire.
C'est sûr. Merci beaucoup, Dr Weiss. Bonne journée.
Vous aussi.
Au revoir. Dr Carl Weiss, qui est microbiologiste. On en a beaucoup parlé des masques. Je vais faire une parenthèse, parce que au point de presse, on invite les Québécois, les Québécoises à acheter des masques au Québec. Je veux bien, mais je demanderais à ces producteurs-là, et je comprends que beaucoup d'entreprises ont dû s'ajuster. Là. Ils faisaient autre chose avant, puis se sont mis à produire des masques. Mais il n'y a rien de plus frustrant, il n'y a rien de pire pour la réputation, c'est de faire payer les gens en ligne et d'être incapable de livrer le masque. Il y a des gens qui ont commandé, ça fait 6 semaines, ça fait 8 semaines, ça fait 2 mois, ça, là. À des entreprises d'ici qui n'ont pas livré, qui ne répondent pas au courriel. Je pourrais vous donner des noms, parce qu'il y en a plusieurs. va peut-être le faire demain, va peut-être le faire la semaine prochaine. Je comprends que vous avez peut-être été inondé. Puis il y a des gens qui annoncent ici, là. Puis il y a des gens qui annoncent pas ici, là. C'est pas ça qui va m'empêcher de le dire. C'est que t'as un problème, ça se peut. Que tu répondes pas à tes clients qui ont payé d'avance pour un masque qui est pas donné. Puis on comprend, là, il y a des frais. C'est pas cool, ça. Ça fait pas une bonne réputation. Tu sais, il y a des gens qui partent vite en disant « Ah, je vais vous faire des masques, je vais vous faire des masques, je suis équipé. » Puis là, évidemment, les commandes entrent, on les prend toutes, mais on peut pas livrer. Le minimum, c'est d'au moins dire la vérité. De promettre, puis de pas le faire. Tu sais, parce que moi, j'attends mes masques, tu me dis que je vais les avoir d'ici une semaine. Ça fait 8 semaines, il faut que j'en achète d'autres. Il faut que j'en trouve d'autres. Juste faire cette mise en garde. C'est pas très bon pour la réputation. Puis là, des masques qui commencent à en avoir, puis il y a plus de gens qui en offrent. Fait que ça serait bien de pouvoir livrer. Puis je peux vous dire, j'ai une liste d'à peu près 6-7. Puis je vais aller vérifier aussi pour être bien certain là, sur les délais pour la livraison de ces masques.